Monsieur Dinguérard, dans la série Panorama Méridional, va nous entretenir aujourd'hui du folklore dans le Sud-Ouest.
On vous a annoncé une série de 4 émissions consacrées au folklore occitan, et je vous dois des excuses sur ce titre un peu trompeur. Il sera certes question de folklore dans ces 4 émissions, et vous le constaterez dès aujourd'hui. Mais plutôt que de consacrer 4 causeries aux croyances, aux contes et légendes, à la chanson, ainsi de suite, nous avons en définitive préféré vous présenter un petit panorama des études méridionales qui se font à l'Université de Toulouse-Le Mireille. Bien sûr, en un temps aussi court, ce panorama ne pouvait viser à être complet. Aussi avons-nous borné notre thème à la langue et à la culture, en regrettant de passer sous silence la recherche occitane en histoire, en géographie par exemple, qui sont des secteurs où il se passe des choses bien intéressantes. Même dans le domaine de la langue et de la culture, nous avons été contraints de faire un choix. Comme toutes les langues, l'occitan n'est observable qu'à l'état dialectal, et c'est ce qui nous a incité à demander à Xavier Ravier de vous présenter, en une émission spéciale, l'Atlas linguistique du Languedoc, à quoi il met en ce moment la dernière main. Enquêteur principal pour l'Atlas Gascon, aujourd'hui achevé, et directeur de l'Atlas languedocien, Xavier Ravier est particulièrement qualifié pour parler de ce que certains appellent encore parfois les patois, avec une nuance péjorative que nous ne saurions accepter. Christian Anatole, quant à lui, consacrera une émission à la littérature occitane. Il ne faut pas oublier, en effet, que nos patois ont eu autrefois une littérature qui éclipsait, et de loin, la pauvre littérature française. Et que ces patois, après 2 ou 3 siècles de vie plus obscure, connaissent aujourd'hui une renaissance littéraire extraordinairement brillante. Oh, bien sûr, les critiques littéraires de la presse en français en parlent rarement. Mais il est, en France, des écrivains qui ont choisi de s'exprimer en occitan. Ils savaient pourtant que ce choix les mettait automatiquement hors du circuit des prix littéraires et des gros tirages auxquels ils pouvaient prétendre. Pourtant, les œuvres qu'ils produisent constituent une littérature d'une qualité telle que personne, aujourd'hui, n'est plus en droit de l'ignorer. Enfin, dans une autre émission, Jacques Allière vous entretiendra d'une question qui, depuis des siècles, n'a pas cessé d'exciter les esprits. Il s'agit de l'énigme des Basques. Cette population, aujourd'hui, n'occupe qu'un tout petit coin de notre sud-ouest, mais ne représente-t-elle pas le dernier îlot de conservation d'une langue, de mœurs et de coutumes qui, autrefois, était répandu dans tout le territoire délimité par la Garonne, les Pyrénées et l'Atlantique. Si les questions qui seront abordées dans ces 4 émissions méridionales vous intéressent, je vous signale que l'Université de Toulouse-Le Mireille publie régulièrement une revue qui leur est intégralement consacrée. Cette revue s'appelle Via Domitia et elle se trouve actuellement en librairie. Si vous ne l'y trouviez pas, il vous est facile de vous la procurer auprès du service des publications de l'université, 56 rue du Thor, à Toulouse. Depuis bientôt un quart de siècle qu'elle paraît, Via Domitia constitue une véritable encyclopédie permanente de la langue et de la culture occitane, et je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Pour cette première émission, je vous invite à une petite promenade dans le jardin zoologique de Gascogne. Nous nous arrêterons devant la fosse aux serpents. Oh, bien sûr, nos bestioles ont rarement quelque chose qui les distingue de leurs homologues des autres provinces, mais là n'est pas le problème. Ce qui nous retiendra, c'est bien moins l'animal que la vision particulière que les Gascons ont de cet animal. Cette vision, en effet, peut déboucher sur un bestiaire symbolique fort original, dont l'étude se révélera pleine d'intérêt pour le linguiste, pour l'anthropologue, mais aussi pour l'historien, pour le psychanalyste et pour bien d'autres encore, spécialistes ou simples curieux. Bien sûr, dans tous les pays du monde, la zoologie populaire a de quoi faire bondir d'indignation les naturalistes scientifiques. En Gascogne, comme en bien d'autres lieux, on n'établit pas toujours une relation entre le têtard et la grenouille. On considère parfois qu'il s'agit là de deux animaux aussi différents que peuvent l'être une alouette et un cheval. Inversement, on établit parfois des rapports qui étonnent. C'est ainsi que la libellule passe en quelques lieux pour être le mâle de la vipère, vipère qui, elle-même, a la réputation de pouvoir voler. À qui entre dans la faune populaire, il convient donc de se débarrasser provisoirement de ses connaissances scientifiques comme d'autant de préjugés. Il faut accepter un univers fantastique où tout est possible. Par exemple, dans cet univers fantastique, le serpent éprouve un goût particulier pour le lait de vache, au point de téter leur pie jusqu'à épuisement, au grand désespoir de l'éleveur. Mieux encore, le serpent tète la vache avec une telle douceur que celle-ci en éprouve une extrême volupté, si bien qu'elle refuse désormais de se laisser traire par des mains humaines qu'elle trouve infiniment moins caressantes. On conçoit qu'un propriétaire un peu soucieux de son cheptel ne saurait tolérer la concurrence déloyale du reptile. Il va donc lui livrer une chasse acharnée. Et il est rare qu'on n'ait pas à vous conter quelque histoire de serpent coupé en deux par un coup de faux et qui aurait éclaboussé de lait au lieu de répandre du sang. La croyance au serpent têteur est toujours bien vivace. Les naturalistes ont beau signaler que la conformation de ses mâchoires rend le reptile incapable de la succion adéquate, ils ont beau montrer par l'expérience qu'une couleuvre en cage, à qui l'on ne donne que du lait pour toute nourriture, finit par mourir de faim sans toucher à cet aliment, tout cela ne fait rien. Autour des étables, on trouve toujours des pièges à serpents constitués d'une bouteille enterrée au fond de laquelle on a mis un peu de lait. Le reptile est censé ne pas pouvoir résister à cet appât. Une fois le lait bu, il ne peut évidemment plus quitter son piège puisqu'il est incapable de grimper le long des parois de verre d'une bouteille. Concurrent de l'homme pour l'exploitation des bovins, le serpent pousse la malice jusqu'à se glisser sournoisement dans la basse-cour. Il use alors d'un déguisement qui laisse loin derrière tous les Arsène Lupin. En effet, grâce à un commerce illicite avec une poule, le serpent va naître d'un œuf, un œuf d'apparence anodine. Heureusement, la fermière peut reconnaître l'œuf qui contient un serpent. Il faut dire que la poule qui l'a pondu peut être prise d'un scrupule tardif. Au lieu de pousser alors son chant habituel en pareille circonstance, se met brusquement à chanter comme un coq. Et c'est pourquoi on appelle parfois œuf de coq l'œuf dans lequel se trouve le serpent. Évidemment, la malheureuse poule est alors victime de son dévouement. Elle va payer de sa vie, sinon sa faute, du moins l'avertissement qu'elle a donné. Elle est en effet immédiatement mise à mort. En général, il est même recommandé de la manger seulement entre habitants de la ferme, sans en faire profiter le moindre invité, ni aucun voisin. Mais si la fermière avait négligé de tenir compte de l'avertissement que lui donne la poule lorsqu'elle se met à chanter comme le coq, l'œuf de serpent serait couvé parmi les autres et il en naîtrait un terrible basilic. Le basilic est un reptile qui tue par son seul regard. Aussi ne peut-on guère s'en débarrasser qu'en lui présentant un miroir. Comme il voit alors sa propre image, il tombe immédiatement foudroyé. Tout ce folklore du serpent nous montre l'animal comme un maître illusionniste, capable de revêtir les apparences les plus trompeuses pour parvenir à ses fins. Le serpent n'est pas exactement un animal magique, c'est un magicien, et sans doute le maître de tous les magiciens. C'est à cet aspect de sa personnalité qu'il faut sans doute attribuer le pouvoir symétrique qu'il a, de pouvoir au contraire faire cesser l'illusion. C'est un conseil que l'on vous donnera parfois dans les campagnes, lorsque passe un prestidigitateur ambulant. Si vous voulez voir ce qu'exécute réellement l'artiste, plutôt que de subir l'illusion de son spectacle, ayez donc soin d'avoir dans votre poche une peau de serpent. Sa seule présence empêchera l'illusion de vous atteindre. Il y a même mieux. Le serpent peut vous rendre capable d'empêcher l'illusionniste de réussir ses tours. La recette est ici un peu plus compliquée, mais je vous la livre tout de même. Lorsqu'est venue la saison des amours pour les serpents, promenez-vous à travers prés. Lorsque vous apercevrez deux vipères en train de s'accoupler, vous jetterez sur elles votre mouchoir, en vous gardant bien de trop vous approcher. Furieux d'être dérangés en un pareil moment, les serpents répandront alors sur le mouchoir leurs deux venins, le venin mâle et le venin femelle. Et puis, dégoûtés, ils finiront par quitter la place. Vous n'aurez plus alors qu'à récupérer votre mouchoir plein des deux venins mélangés. Et si vous l'avez dans votre poche, lorsque passe un prestidigitateur, à tout coup, vous le rendrez incapable d'exécuter le moindre tour. Je vous répète cependant qu'il faut être d'une extrême prudence dans le jet du mouchoir au serpent, car cet animal redoutable peut décider de vous poursuivre. Si cette occasion se présentait, gardez pourtant votre sang-froid. Il s'agit simplement pour vous de fuir, mais en prenant quelques précautions. D'abord, vous devez fuir en montant, jamais en descendant. Ensuite, prenez bien garde de fuir en faisant des crochets et non pas en ligne droite. Pourquoi ? Parce que le serpent éprouve beaucoup de mal à prendre les virages et que vous pourrez ainsi le distancer. Ensuite, il faut monter parce que si vous dévaliez une pente, le serpent saisirait sa queue dans sa bouche et, se mettant ainsi en cerceau, il roulerait et n'aurait aucune peine à vous rattraper. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se donner le mal de fuir le serpent. Il existe par exemple un secret qui provoque 24 heures de léthargie chez le serpent. Ce secret, je ne peux pas vous le donner, pour la bonne raison que je n'ai pas pu encore me le procurer. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une prière spéciale que l'on doit prononcer en faisant certains gestes appropriés pendant la messe, juste au moment où le prêtre est en train de parler du serpent endormi. Que penser de ces quelques faits folkloriques ? D'abord, qu'il risque de m'attirer les foudres des naturalistes si par mégarde il s'en trouve un à l'écoute. Mais je vous avais prévenu que l'histoire naturelle n'était point mon propos, mais bien plutôt l'entrée dans un univers mental particulier où les données scientifiques restent lettres mortes. Mais si on y réfléchit un peu, il est tout de même curieux que le paysan, d'ordinaire fort perspicace observateur de la nature, se laisse aller, dans le cas du serpent, à des développements imaginatifs comme ceux que je vous ai exposés. Le reptile est peut-être une réalité banale pour lui, mais à côté de cet objet trivial, de ce fait naturel qu'est le reptile observable, il existe le fait culturel, c'est-à-dire la vision folklorique et, pourquoi ne pas le dire, la vision proprement métaphysique du serpent. Poser ce fait qu'il ne s'agit pas ici de zoologie, mais de faune symbolique, nous pouvons nous sentir totalement libérés des contraintes de l'histoire naturelle et examiner deux points révélateurs d'une vision particulière du serpent. Nous nous demanderons, d'une part, avec quels autres animaux le serpent se trouve en affinité, peut-être même en polymorphisme, au point d'alterner sans encombre avec lui. Et d'autre part, nous nous demanderons avec quel animal le serpent se trouve en incompatibilité, en opposition, ou si l'on veut, quel est l'animal contraire au serpent. La linguistique montre qu'en Gascogne, la couleuvre porte parfois le nom du loir. Cela ne signifie absolument pas que les deux animaux, le reptile et le mammifère, soient confondus. Cela signifie qu'on établit entre eux une affinité, dont la nature d'ailleurs reste à préciser. La loutre se trouve également en affinité avec le serpent. Si j'en crois le génial Bladé, le basilic a le corps d'une loutre, avec une tête d'homme couronnée d'or, comme les empereurs et les rois. Et dans l'un des contes gascons que releva Bladé au siècle dernier, la reine des vipères a pour père une sorte de loutre-garou qui dépouille volontiers sa peau d'homme pour aller pêcher dans le Gers. Mais c'est avec la belette que l'apparentement se produit le plus volontiers. Dans le Haut-Couseran, d'où j'ai tiré la plupart des faits folkloriques dont j'ai fait état plus haut, il semble bien que la belette soit parfois conçue comme la femelle du lézard vert, dont elle peut porter le nom. Exactement comme pour le serpent, on attribue à la belette un venin et un pouvoir de fascination extrêmement efficace. Enfin, il semble bien que parfois, l'incantation bien connue à la belette, Panquera bera bera, cas pan en ataulera, for magena scudera et leitena caudera, cette incantation soit parfois remplacée par une incantation au reptile, bi, per, ober, ober, etc. Peut-être même avec la même offrande propitiatoire de pain et de produits laitiers. Le naturaliste, ici, aura beau jeu de faire remarquer que les mustélidés, c'est-à-dire la belette, sont connus pour leur démarche très caractéristique, une démarche ondulante et glissée, qui n'est pas sans rappeler les sinuosités du serpent. Je les laisse libres d'ironiser sur un apparentement fondé sur un aussi mince critère. Encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je me bornerai à constater que dans la faune populaire de Gascogne, le serpent alterne sans encombre avec la belette, parfois avec d'autres animaux qui ressemblent vaguement à cette dernière. Or, la belette est elle-même un animal fort métaphysique. On prétendait d'elle, au Moyen-Âge, qu'elle concevait par l'oreille et qu'elle engendrait par la bouche. L'allégorie de l'intellect, je crois, est dès lors assez transparente et on peut l'extrapoler au serpent. Car enfin, le serpent possède bien la propriété de dessiler les yeux. Nous l'avons vu lorsqu'il s'agissait de se préserver d'une illusion. Moins métaphoriquement, on trouve encore la croyance qu'existe dans la tête du reptile une pierre spéciale. Cette pierre, extraite de l'animal encore vivant, possède la propriété, lorsqu'on la promène entre l'œil et la paupière, de débarrasser la vision de toutes ses impuretés, voire de guérir quelques affections ophtalmiques. Et cette liaison constante du serpent à la vision et à l'œil nous livre la clé de son correspondant antithétique. Il s'agit du corbeau, qui a la réputation tenace de s'attaquer aux yeux des gens pour leur sucer la cervelle. C'est-à-dire que le corbeau agit juste à l'inverse du serpent, qui qui est le grand clarificateur. Permettez-moi de vous lire à cette occasion l'un des passages les plus hermétiques d'un beau conte de Bladé. Il s'agit des énigmes que le jeune homme pose au sphinx, et les réponses à ces énigmes ont toujours paru inintelligibles. Qu'y a-t-il au premier bout du monde ? Qu'y a-t-il à l'autre bout du monde ? Voici les réponses. Au premier bout du monde, il y a un roi couronné, un roi vêtu de rouge et galonné d'or, qui se tient prêt à combattre et brandit une épée. Il regarde le ciel, la terre et la mer. Mais le roi couronné ne voit rien venir. Et l'on comparera cette image du roi couronné à l'image du basilic, c'est-à-dire du petit roi dont j'ai déjà parlé. Voici pour la seconde réponse. À l'autre bout du monde, il y a un grand corbeau, vieux de 7000 ans, juché sur la cime d'une montagne. Il sait et voit tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fera. Mais le grand corbeau, vieux de 7000 ans, ne veut pas parler. Bref, le serpent et le corbeau représentent les deux pôles opposés de la connaissance. L'un représente la connaissance égoïste, stérile et morte, et c'est le corbeau. L'autre, le serpent, représente une connaissance dangereuse, sans doute, mais finalement bénéfique et qui peut s'acquérir avec quelques efforts. Dans cette perspective, le goût du serpent pour le lait, simple critère de blancheur, pourra être interprété comme un simple effet de contraste avec la noirceur du corbeau. Évidemment, on peut toujours soutenir que, sous certains aspects, cette vision du serpent ne fait que développer l'imagerie chrétienne. Le serpent qui tenta Ève n'est-il pas par définition le séducteur et le maître de l'illusion ? Ne représente-t-on pas quelquefois la Vierge foulant aux pieds un reptile comme s'il fallait que la faute d'Ève soit rachetée par une femme ? Tout cela est peut-être vrai, et il serait séduisant d'étayer une telle interprétation sur les croyances observées en d'autres régions. Ainsi, il est des contrées où le reptile, un serpent ou plus souvent encore une salamandre, le reptile est accusé non plus de téter les vaches, mais de façon bien moins allégorique de téter les jeunes mères. Souvent même, on le maudit pour avoir dérobé du lait au sein de la Vierge lorsqu'elle nourrissait le Christ. Et je me demande s'il ne s'agit pas là de croyances païennes que l'Église aurait récupérées, un peu à la manière de ces croix que l'on trouve sur les menhirs, parce que le clergé les y gravait pour désamorcer la nocivité de pierres qui témoignaient de cultes non chrétiens. Le fait troublant, c'est que cette récupération chrétienne n'aura pas réussi à oblitérer la vieille conception du serpent bénéfique. Je ne me hasarderai pas plus loin, tant nous est en définitive mal connue la mythologie pré-chrétienne de nos contrées. Mais lorsque vous passerez devant le musée des Augustins à Toulouse, contemplez donc quelques instants la superbe pierre d'eau dont copie est exposée. C'est une bien maladroite silhouette androgyne qui y est sculpté, mais on y distingue parfaitement un serpent phallique qui appuie sa bouche contre une mamelle gonflée. Alors, la croyance au serpent têteur prendrait-elle son appui dans les religions de notre préhistoire ? Des éléments de ces religions survivraient-ils dans notre folklore sous divers travestissements ? L'inconscient collectif de Gascogne serait-il tributaire de cette mythologie immémoriale ? Autant de questions que je me contente de poser, remettant à plus tard le soin fort malaisé d'y répondre. Mais je dois pourtant vous signaler que Henri Polge a récemment déceler, grâce à l'examen des noms gascons du lézard, une piste qui me semble extrêmement suggestive, celle des animaux que frapperait un antique tabou, parce qu'ils étaient mythiquement terrifiants. S'ouvre donc ici, pour tous les esprits curieux, un vaste chantier. De la collaboration du linguiste, du folkloriste, du psychologue des profondeurs, de l'historien et de bien d'autres, pourrait naître une recherche difficile, mais ô combien fascinante, et dont j'ai voulu aujourd'hui vous donner un rapide aperçu.
Vous venez d'entendre M. Dinguirard qui vous a parlé du folklore dans le Sud-Ouest.